On connaît aussi l'ascension aussi ardue que fructueuse du mont Nansen par Peabody et deux de ses étudiants, Jedney et Carol, entre le 13 et le 15 décembre. Nous étions alors à quelques 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et lorsque des forages expérimentaux ont révélé que le sol rocheux ne se trouvait qu'à 3 mètres de profondeur à certains endroits, nous avons usé et abusé de notre petit appareil à faire fondre la glace, de nos foreuses, ainsi que de la dynamite en de multiples endroits où aucun de ceux qui étaient passés avant nous n'aurait même songé à prélever des échantillons de minéraux. Les strates de granit précambrien et de grès de Beacon ainsi obtenues nous ont confirmé ce que nous pensions déjà, à savoir que ce plateau était de même nature que la grande masse du continent à l'ouest, mais assez différent des régions situées plus à l'est dans l'alignement de l'Amérique du Sud, région que nous pensions alors former un continent indépendant plus petit, séparé de la masse de terre principale par la jonction gelée des mers de Ross et de Weddell. Mais cette hypothèse a été réfutée depuis par Bird. Dans certaines des pierres de grès que nous avons dynamitées et taillées après que les forages nous aient révélé leur nature, nous avons trouvé des empreintes et des fragments fossiles particulièrement intéressants, notamment des fougères, des algues, des trilobites, des crinoïdes et des mollusques tels que des lingules et des gastéropodes qui, tous, semblaient partager un lien direct avec les premiers âges de cette région. Nous avons aussi déniché une étrange empreinte triangulaire striée, d'une trentaine de centimètres dans son plus grand diamètre, que Lake avait assemblée à partir de 3 fragments d'ardoise extraits d'un forage en profondeur. Il provenait d'un emplacement situé à l'ouest, près de la chaîne de montagnes de la reine Alexandra, et Lake, en tant que biologiste, parut trouver ces traces fort étranges et intrigantes, bien qu'à mes yeux de géologue, elles ressemblassent à certains effets de vagues couramment rencontrés dans les roches sédimentaires. Étant donné que l'ardoise n'est jamais qu'une formation métamorphique résultant de l'action de la pression sur une strate sédimentaire, et comme cette même pression entraîne d'étranges effets de déformation sur toute marque qui pourrait y être présente, je ne voyais là aucune raison de m'extasier. Le 6 janvier 1931, Lake, Peabody, Daniels, nos 6 étudiants, 4 mécaniciens et moi-même, avons pris 2 de nos avions pour partir vers le pôle sud. Mais nous avons été forcés d'atterrir par un grand vent soudain qui, heureusement, ne se transforma pas en tempête. Comme l'ont souligné les journaux, ce fut un de nos nombreux vols d'observation, les autres étant consacrés à la recherche d'éléments topographiques inédits dans des zones que les explorateurs précédents n'avaient pu atteindre. Sur ce dernier point, nos premiers vols se sont avérés assez décevants, bien qu'il nous ait permis de découvrir de magnifiques exemples des mirages extraordinaires et trompeurs que recèlent les régions polaires et dont notre voyage maritime nous avait donné un avant-goût. Des montagnes lointaines flottaient dans le ciel, comme des villes enchantées, et souvent cet horizon d'une infinie blancheur se dissolvait pour laisser place à un pays de rêve où se mêlaient des tons d'or, d'argent et d'écarlate, promesses d'aventures donsaniennes sous les rayons magiques du soleil de minuit. Lorsque les nuages se levaient, les voyages en avion devenaient pénibles, le ciel et les terres enneigées se fondant en un néant mystique et opalescent où rien ne permettait de dire où commençait l'un et où se terminait l'autre. Finalement, nous avons décidé de nous en tenir à notre plan initial et de continuer sur 300 km vers l'est avec nos 4 avions d'exploration pour établir une nouvelle base à un emplacement qui se trouverait probablement sur ce que nous prenions alors pour la division continentale inférieure. Des échantillons géologiques prélevés à cet endroit seraient précieux pour nos analyses comparatives. Jusque-là, nous étions restés en excellente condition physique. Nos réserves de jus de citron complétaient bien notre régime composé de nourriture salée ou en boîte, et les températures généralement au-dessus de zéro nous épargnaient de devoir porter nos plus épaisses fourrures. C'était maintenant le milieu de l'été. En travaillant rapidement et avec soin, nous pourrions avoir fini au mois de mars et éviter d'avoir à rester pendant la longue nuit de l'hiver antarctique. Plusieurs tempêtes particulièrement violentes avaient surgi de l'ouest pour s'abattre sur nous, mais nous avions évité l'essentiel des dégâts grâce à Atwood, qui avait construit des abris rudimentaires pour les avions avec de gros blocs de neige. Il avait par ailleurs renforcé de la même manière les bâtiments du camp de base. La chance dont nous avions bénéficié jusque-là, ainsi que notre efficacité, avait été proprement stupéfiante. Bien sûr, le monde extérieur était au courant de notre programme, et fut informé de l'étrange entêtement de Lake, qui tenait à entreprendre un voyage de prospection vers l'ouest, ou plutôt le nord-ouest, avant de gagner définitivement notre nouvelle base. Apparemment, il avait beaucoup médité, et il n'avait pas reculé devant des idées d'une audace presque inquiétante au sujet de ces striures triangulaires gravées dans l'ardoise. Dans ces marques, il avait lu certaines contradictions naturelles et géologiques qui avaient éveillé sa curiosité, le rendant avide de continuer les forages dans la formation qui s'étendait à l'ouest de celle d'où provenaient, sans l'ombre d'un doute, les fragments exhumés. Curieusement, il était convaincu que cette trace était l'empreinte d'un organisme inconnu, de grande taille et inclassable, témoignant d'un degré d'évolution extrêmement avancé, nonobstant le fait que la roche qui la renfermait était si ancienne, remontant au Cambrien, voire au Précambrien, qu'elle excluait l'existence d'une forme de vie plus évoluée que le niveau des organismes unicellulaires ou, au mieux, des trilobites. Ces fragments et leurs étranges gravures devaient avoir entre 500 millions et 1 milliard d'années.